Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Bienvenue dans cette émission Il n'y a pas que le 8 mars, en direct et en public depuis le musée numérique de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Un grand merci aux structures qui nous accueillent dans ce bâtiment, la MJC, la GLCA et Altec. Une émission particulière parce qu'aujourd'hui on est bien le 8 mars. On a même décalé notre diffusion d'une semaine pour célébrer cette journée et faire le point sur les avancées en matière de droits des femmes. Parce que même si tous les mois on se penche sur la question et tous les mois on le dit, on le redit, ça n'avance pas assez vite, il se passe tout de même des choses sur le terrain et ces petites choses sont souvent éclairées par cette journée phare. Aujourd'hui, dans cette émission, nous naviguerons entre des actions menées par des citoyennes, des structures associatives, parfois missionnées par l'État, et des revendications portées par des représentantes syndicales. Nous tenterons de faire à notre échelle très locale un point sur le droit des femmes, sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles ressentent, ici à Bourg-en-Bresse, en compagnie d'une multitude d'invités. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Radio B a souhaité s'associer à l'après-midi le 8, mais pas que, organisé par le Centre social de la Ressouze, ses habitantes et une association locale, Gemnamix Attitude. Une après-midi pour mettre en lumière le travail de nombreuses associations, mais aussi d'un groupe de femmes du quartier de la Ressouze à Bourg-en-Bresse. Alexia Le Foyer, Noura Louache, bonjour.
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 Alexia, vous êtes animatrice au Centre social de la Ressouze.
Oui, plus, je suis même conseillère en économie sociale et familiale.
Encore mieux.
Ouais.
Noor, vous êtes référente de l'association Gemnamix Attitude.
Exactement, chef de projet.
Et Bouchra, bonjour.
Oui, je suis Madame Emoufadi, bonjour. Je suis un membre du conseil d'administration de l'association OCREI de la Grande Ressouze.
Alors déjà, pour présenter cette association, vous pouvez nous dire deux, trois mots?
Oui, c'est l'association d'usagers et des habitants. C'est pour grandir le pouvoir d'agir des habitants de la Grande Ressouze en coopération avec la CCS qui sécurise la gestion du centre social.
Au centre social, il y a notamment un groupe de femmes qui a été constitué. Alexia, Noor, comment tout a commencé?
Eh bien, ça a commencé à l'automne 2022. On a commencé à beaucoup discuter toutes les deux. On s'est rencontrées à ce moment-là. Et puis, on a organisé une soirée de la femme en mars dernier, justement, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, qui a été super, où on a eu 60 femmes. Et on a dû refuser des personnes. Et suite à ça, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là.
C'était quoi les motivations de ces femmes quand vous les avez rencontrées? Qu'est-ce qu'elles vous disaient, en fait?
Bah, en fait, c'était déjà un contexte... On sortait d'un contexte mondial de Covid et on était dans une période qui n'était pas top. Ça sortait un peu d'un isolement. Il y avait une envie de se voir, il y avait une envie de parler, il y avait une envie de partager. Et on s'est dit, bah allez, soirée. D'où la veste pour la dédicace.
Pour marquer le coup.
Pour ceux qui m'écoutent, qui ne me voient pas, c'est une veste qui pétille et qui scintille.
Hommage à Michael Jackson.
Exact.
Et comment ce groupe a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette soirée de la femme?
Eh bien, il s'est passé plein de choses. Toute une histoire. Il s'est passé plus de 40 actions autour de trois thématiques. L'insertion, le sport, la culture, la santé et plein d'autres choses.
Et on avait un peu un point d'honneur à évoquer la charge mentale des femmes à travers toutes ces thématiques en fait de la vie quotidienne. Et notre désir, c'était de les accompagner là-dessus et s'éclater.
Et ce qui était important pour nous, c'est que, bon, avant de commencer les choses sérieuses, on va commencer par prendre soin de nous. Donc on a vraiment commencé avec tout ce qui est santé, bien-être, sport. On a commencé à faire un peu de sport avec le tech volet. Ensuite, on est parti se faire belle avec les socio-esthéticiennes. Mmh. On s'est mis bien. On a bien été accueillis par la Fondation L'Oréal. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé encore?
On a fait une journée au vert.
Ah,
on s'est
ça, c'était
papier,
jardin de la
on a
vivance.
Dansé.
Ouais. C'était la kiffance.
Ouais.
Et du coup, on a fait des repas partagés parce qu'on est spécialiste là-dessus sur les
partages. Ouais, à Cuisine, on adore.
On aime bien manger. Et on a de la chance d'avoir une diversité de public, donc on se régale.
Et puis on a donc aujourd'hui on a une multitude de partenaires présents sur l'événement, mais du coup qui ont aussi œuvré toute l'année, alors de façon plus discrète, mais auprès de ces femmes, je pense à Couple et Famille qui interviendra tout à l'heure, l'ADI, les points info emploi, enfin j'en oublie sûrement, mais du coup qui ont permis d'aborder toutes ces thématiques là avec leurs compétences.
Et ces femmes, elles sont combien? Qui elles sont? Quels âges elles ont? D'où elles viennent? De la Ressouze essentiellement, j'imagine, mais peut-être d'ailleurs?
Oui, exactement. On a le quartier de la Ressouze, mais pas que. On a également tous les quartiers de la ville de Bourg-en-Bresse, mais pas que. On a aussi les villes qui sont à côté, comme Perona, Viria, Saint-Denis-les-Bourg, mais pas que. Il faut savoir que la plupart des gens qui ont quitté le quartier, ils ne l'ont pas trop quitté, en fait. Hein. Peut-être qu'ils sont partis en maison dans les villes d'à côté, mais le centre social, c'est le cœur.
Dans ce projet, on n'a pas oublié les hommes non plus, parce qu'on l'a appelé femme, F'âme. Mais on a aussi des hommes qui nous ont rejoints pendant l'aventure et qui ont participé. Alors, pas toutes les actions, il y a des choses qu'on a privatisées pour les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont présents sur le centre social de la Ressouze et qui sont là avec nous. Et aujourd'hui, on avait beaucoup d'hommes, si vous avez remarqué. Donc, c'est chouette.
Aujourd'hui, justement, l'idée, c'était de présenter les structures qui sont partenaires de votre action et, ici à Bourg-en-Bresse, qui œuvrent au quotidien aux droits des femmes. Quel retour vous pouvez faire sur cet après-midi, à chaud ?
Là, comme ça, à chaud, bonheur, joie, partage, kiff, collectif. Il est pourri, mon jeu de mots, mais je l'aime bien. Collectif, on kiffe ensemble, on fait ensemble, parce qu'on doit faire ensemble, on doit investir dans l'humain. À la sortie du Covid, on s'est bien rendu compte que s'il y a un capital qui est important, c'est pas l'argent, c'est l'humain. On se rend compte que quand on était isolé chacun dans notre chacun, on s'ennuie un petit peu, et qu'il faut apprendre à... faut réapprendre la solidarité, j'ai l'impression, et je me dis que ensemble, même en n'étant pas d'accord, il faut qu'on apprenne à vivre et à vraiment s'entraider.
Et garder ses liens, ouais.
Cécile Grosjean, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Cette journée, elle est symbolique, mais elle mobilise, hein, on le voit aujourd'hui à la MCC. Quel regard vous portez sur ce genre d'événement ?
Regard un peu émerveillé, très positif évidemment. C'est une journée pour se mobiliser, pour se rassembler, pour se rappeler aussi ce qui nous a conduit là, hein, toute l'histoire de la lutte des femmes. Et je trouve ça vraiment incroyable, toute cette mobilisation aujourd'hui. Ça donne énormément d'énergie pour la suite en fait.
Dans l'Ain, c'est une centaine d'initiatives là, qui ont été déployées sur la journée. Un programme qui s'enrichit, qui s'étoffe au fil des années. On en a parlé tout à l'heure.
Oui, d'année en année. Et moi, je m'attache à donner cette vision départementale autour de cette journée du 8 mars. J'ai un rayon d'action à l'échelle du département et je trouve important aussi de valoriser toutes les actions effectivement, qui peuvent avoir lieu autour de cette journée internationale dans l'ensemble du territoire de l'Ain. Montrer que des actions, le nombre grandit, mais elles se spécialisent aussi. C'est ça que je trouve très intéressant. On a des actions à la fois culturelles, à la fois sociales, à la fois sur le domaine économique, sur le domaine de la santé, et de plus en plus pointues, spécialisées. On va vraiment sur des champs liés aux mécanismes. On traite les mécanismes qui nous conduisent aux inégalités et comment progresser.
Quel message on porte aujourd'hui quand on est délégué départemental aux droits des femmes et à l'égalité ?
Eh ben, je représente l'État, donc c'est le message de l'État. Et actuellement, on a une action qui se centre sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment les violences conjugales, la santé des femmes, et notamment, ce que j'ai à cœur de porter, c'est la santé menstruelle et la santé sexuelle des femmes, y compris auprès des scolaires et notamment des collégiens. L'émancipation économique, la liberté, l'autonomie des femmes, passe également par l'insertion professionnelle. Et puis un dernier axe, qui est celui de la culture, la diffusion d'une culture de l'égalité, de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Et là, moi, j'adore travailler avec les collèges. Et il y a de plus en plus de collèges qui me sollicitent et qui nomment des référents égalité, qui s'inscrivent dans le label égalité filles-garçons de l'éducation nationale. Et voilà, on voit que cette dynamique prend.
Mesdames, je vous remercie.
Merci à toi.
Merci.
Merci.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant, dès lors que nos cœurs se serrent. Mesdames, on femmes, soyons fiers.
Camélia Jordana et le titre « Femmes » sur Radio B dans l'émission « Il n'y a pas que le 8 mars », une émission en direct et en public de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse.
On n'entend pas bien le public. Hein. Ouais. Chauffeurs, chauffeuses de salle. Lauriane Rivet, vous êtes conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Couple et Famille. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ?
Oui, bien sûr. Donc, l'association Couple et Famille de l'Ain est une association de conseil conjugal et familial agréée EVARS, Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un agrément de la préfecture qui nous permet d'œuvrer sur tous les champs de la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc sur tout un panel de sujets qui concernent notamment les femmes, mais pas que. Voilà, de diverses manières.
On va en parler dans vos missions. Il y a tout un travail, notamment autour de la précarité menstruelle. Voilà. Alors, la précarité menstruelle, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Natacha, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ?
Oui, alors la précarité menstruelle, c'est un sujet qui a longtemps été invisible, hein, connu, peu connu, mal connu, voire carrément tabou, parce que en fait, il s'agit des femmes et de leurs règles. Et donc cette notion de précarité menstruelle, elle désigne les difficultés ou l'impossibilité pour des filles et des femmes à se procurer des protections périodiques à cause de leurs faibles revenus. Elle inclut aussi les difficultés d'accès aux médicaments antidouleurs et aux sous-vêtements neufs.
Et en chiffres, ça donne quoi ?
Alors en chiffres, ça fait que la précarité menstruelle, elle concerne de nombreuses femmes, y compris en France. En 2023, on estime que plus de 4 millions de femmes sont concernées dans le pays. C'est franchement énorme. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il a doublé entre 2021 et 2023, du fait de l'inflation notamment. Les protections périodiques étant le produit d'hygiène dont le coût a le plus augmenté.
Donc, Lauriane, vous faites partie du collectif qui s'est monté à Bourg-en-Bresse autour de la précarité menstruelle. C'est quoi les actions de ce collectif ?
Alors, les actions, c'est déjà de se réunir entre partenaires locaux, pour départementaux du moins, pour essayer d'ensemble trouver des pistes de solutions et concrétiser aussi des actions pour lutter contre cette précarité menstruelle. J'aime bien dire aussi que dans le terme précarité menstruelle, il y a tout ce qui est financier. J'aime bien rajouter aussi la notion d'information, parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent avoir les moyens financiers, mais qui pour autant en fait n'ont pas l'information qui vont avec. Donc c'est où trouver ces protections périodiques, quelles sont ces protections périodiques, parce que maintenant on en a tout un panel, et c'est aussi connaître son corps. Et on voit par le biais de nos interventions qu'il y a une grande méconnaissance du corps féminin. Donc en tout cas, ce collectif, ce groupe de travail départemental, c'est de concrétiser des actions. Donc on a pu construire un module de sensibilisation, notamment pour les professionnels, pour accompagner le public au niveau précarité menstruelle, à remettre des protections périodiques. Donc on a tout un lot de serviettes périodiques qu'on peut remettre gratuitement aux personnes qui sont dans cette nécessité. Et puis aussi, on a construit des animations autour de la santé menstruelle en mixité, donc aussi inclure toutes les personnes, quel que soit leur genre, pour qu'il y ait aussi une égalité à ce niveau-là dans l'information. Et on a construit aussi un jeu des règles.
Oui, puis il y a plein d'autres projets. Il y a tout un travail d'information qui se fait. Il y a aussi des temps de collecte, de distribution. Ça fait partie aussi de vos missions ?
Alors ça peut, oui, ça s'organise. Il y a des actions qui ont pu être menées dans ce sens-là au sein du groupe de travail. Notamment, la mission locale a beaucoup œuvré avec une boîte de dons, avec leur collectif menstruel jeune, qui a lancé une belle dynamique à ce niveau-là. Donc il y a tout cet aspect distribution, enfin collecte, distribution de protection périodique. Aujourd'hui aussi, on a eu des subventions pour pouvoir avoir un stock qui est géré par la Croix-Rouge sur le département, qui du coup permet aux associations du département et aux structures de pouvoir se fournir en périodique pour les remettre aux personnes dans le besoin. Et il y a toutes les actions prévention, sensibilisation, accompagnement des personnes au niveau de cette santé menstruelle.
justement sur cette partie-là. Comme vous l'avez dit, couple et famille, c'est aussi un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous assurez donc toute une partie de formation autour de la sexualité, de la découverte du corps, du consentement. Vous pouvez nous en dire plus ? Où est-ce que vous intervenez ? Dans les établissements scolaires, vers d'autres publics ?
Alors en fait, on a trois champs d'action. On a déjà tout le côté conseil conjugal et familial, où on va pouvoir accompagner les personnes en individuel, en couple ou en famille, sur toutes les questions de la vie affective, relationnelle et sexuelle, tous les moments de crise aussi, y compris la période de l'adolescence, où c'est pas forcément simple. Et après, on a tout le côté collectif, où on fait beaucoup d'ateliers, d'animations dans les structures sociales, parce que c'est un public aussi qui nous tient à cœur, parce que pour nous, il faut que toutes les personnes puissent avoir accès à ces informations, y compris les personnes en situation de handicap. Donc on a ce focus-là également. Et on est agréé aussi pour intervenir auprès de l'éducation nationale dans le cadre de la loi qui existe depuis 2001, j'aime bien le rappeler, 3 séances par an d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle du CP à la terminale. Donc
il faut le rappeler parce que tout le monde n'est pas au courant. Je crois que même l'éducation nationale n'est pas au courant.
En tout cas, il y a plein de freins qui viennent se poser pour ces séances-là. Aussi, les parents ont beaucoup de craintes. Les parents des élèves, voilà, il y a plein de représentations. Donc si on peut déjà aussi un peu déconstruire tout ça, de dire qu'en fait, on est vraiment sur de la prévention. On ne va pas au-delà de ce que les enfants connaissent déjà. Justement, on est là pour éviter la prise de risque et pouvoir donner des informations. Parce que les enfants, quel que soit leur âge, les adolescents se posent des questions. Et bien plus qu'on le pense. Donc, moi, je vous invite à poser la question auprès de vous à des jeunes. Combien ils ont reçu dans leur scolarité d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Moi, quand j'interviens en terminale, souvent, je suis à peu près... la moyenne, c'est trois séances sur la scolarité.
Alors que ça commence dès le CP.
Voilà, dès le CP. Et ça, c'est vrai, une méconnaissance totale. Hein, parce que souvent, on dit collège, lycée. Des fois, on me dit, mais en primaire, qu'est-ce qu'on va faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Je suis désolée de vous l'apprendre, mais le consentement, dès tout petit, dès la naissance. Mais bien sûr, on ne va pas aborder du tout les mêmes sujets avec des collégiens, avec des lycéens, qu'avec des maternelles, qu'avec des primaires. Mais c'est comment est-ce qu'on peut se respecter soi? Comment est-ce qu'on peut respecter autrui aussi? Toutes l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, enfin voilà, l'égalité entre tous.
Et puis aujourd'hui, il y a plein d'outils pour ça. J'invite tout le monde à aller faire un tour sur votre stand à l'étage, au premier étage de la MCC. Il y a plein de guides, de petits manuels, d'albums pour les enfants qui sont vraiment adaptés.
Des peluches.
Des doudous.
Voilà, qui représentent la vulve notamment, mais voilà.
Dans l'actualité de ces derniers jours, il y a l'IVG qui entre dans la Constitution. Alors, Natacha, ça veut dire quoi ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais. Attendez, on va expliquer ce que ça veut dire déjà.
Ça veut dire que c'est quand même une victoire, effectivement. Alors l'enjeu, près de 50 ans après l'adoption de la loi Veil qui a dépénalisé l'IVG, qui était jusqu'alors considéré comme un crime, c'était de faire reconnaître que le droit à l'avortement est un droit fondamental. En l'inscrivant dans la Constitution, on fait en sorte qu'il ne puisse être supprimé facilement à l'avenir, et c'est donc mettre les femmes à l'abri d'un recul, car la Constitution, petit point technique, la Constitution, c'est le texte le plus important en France. Aucune loi ne peut être adoptée si elle contrevient à ces principes. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'IVG, le droit à l'avortement, ne pourra pas être remis en cause, sauf à modifier la Constitution. Or, pour cela, il faut soit un référendum, soit une décision prise conjointement par les 3/5 des sénateurs et députés. Voilà, je disais que c'était un petit peu technique. Bref, du coup, ça rend quand même plus compliqué la remise en cause du droit à l'avortement en France. Et franchement, dans un contexte de menaces toujours actives contre ce droit, de la part de l'extrême droite notamment, et dans celui de remise en cause récente de ce droit dans d'autres pays occidentaux, on pense par exemple à la Pologne, la Hongrie, les États-Unis récemment, c'est une bonne nouvelle. C'est donc une nouvelle protection. Même si, comme l'ont fait valoir les associations et militantes féministes qui se sont battues pour cette inscription de l'IVG dans la Constitution, un droit à l'IVG aurait été plus protecteur qu'une liberté garantie. C'est les termes qui ont été choisis pour son inscription dans la Constitution, qui est donc cette liberté garantie qui est quand même moins forte juridiquement. Et évidemment, le combat ne s'arrête pas là, car l'IVG, pour qu'il puisse être un droit actif, eh ben, il faut pouvoir avoir un service public de santé de qualité avec des moyens suffisants pour les centres d'IVG. On peut aussi attendre la suppression de la clause de conscience. On peut aussi espérer et continuer de se battre pour des personnels en nombre suffisant et formés, etc., etc.
Audrey Arbona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aide-soignante au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et secrétaire de la section santé pour la CFDT.
Oui, tout à fait.
De votre côté, vous, comment vous la voyez, cette avancée pour l'IVG ?
Ah bah, c'est une victoire, même si, comme vous le dites, ça reste, ça couvre quand même, mais voilà, ça reste quand même, ça aurait été mieux de l'avoir en couverture. Mais c'est une victoire depuis le temps que la CFDT est sur le terrain pour militer pour ce droit qui est international. C'est très important.
Comme l'a dit Natacha, hein, les conditions d'exercice pour les professionnels de santé, c'est pas le top là en ce moment.
L'hôpital va mal, hein, c'est pas que cette année malheureusement, hein, ça fait plusieurs années. C'est un monde aussi où il est quand même très féminisé, hein, parce que 80% des professionnels sont des femmes. L'alternance, enfin les horaires réguliers, les horaires atypiques, les week-ends, les nuits, les jours fériés. Alors maintenant, il y a la nouveauté aussi des 12 heures. Alors on nous fait croire que les 12 heures, ça va résoudre tous les problèmes de ressources humaines. Malheureusement, on ne parle pas de tous les maux qui vont avec et ce que ça engendre, le travail en 12 heures. L'hôpital va très mal, les soignants vont de plus en plus mal. Il faut savoir quand même que la majorité... Il y a un état de santé en fait, global qui est moins bon que le reste de la population pour les soignants. Que la plupart souffrent quand même de stress, d'épuisement professionnel et de troubles musculosquelettiques. Il faut savoir quand même que 60% des personnes atteintes de troubles musculosquelettiques sont quand même des femmes et que le travail de nuit, par exemple, représente plus 26% de risque de cancer.
Mmh. On imagine en plus que ces conditions de travail, quand elles sont précaires, c'est aussi des conditions d'accueil dégradées pour les patients, globalement, mais aussi pour les patientes, parce qu'on sait que les femmes sont quand même moins bien prises en charge par les hommes. Il y a eu des cas de faits divers où on n'écoutait pas la parole des femmes quand elles disaient qu'elles avaient mal aux 15. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ?
Alors, je dirais pas quand même que les femmes sont moins prises en charge. La problématique, c'est vraiment un problème de santé publique, c'est-à-dire qu'il manque quand même énormément de médecine libérale en amont. Donc, c'est tout un contexte qu'il faut prendre en charge. Du fait qu'il manque ces médecins libéraux, du coup, ça engendre de l'accentuation en fait sur les services d'urgence, donc services d'urgence à l'hôpital, mais aussi le centre 15 qui se retrouve avec des afflux massifs de coups de téléphone. Donc, on a tous en tête malheureusement ce qui a pu se passer sur certaines femmes qui ont pu appeler. Mais voilà, je dirais pas quand même qu'il y a une moins bonne prise en charge. C'est ce qui pose un petit peu souci, c'est que du coup, tout le monde a des valeurs. Quand on travaille à l'hôpital, on ne rentre pas parce qu'on y voit de la lumière. C'est vraiment une vocation. Et le fait, en fait, qu'on ne prenne pas soin des personnels qui prennent soin, c'est ça le problème, en fait. Et comme la majorité est féminine, et ben, malheureusement, c'est beaucoup de mots qui sont invisibles pour les femmes. Et la problématique, c'est que les professionnels de santé ne s'écoutent pas. Donc en fait, on est là pour prendre en charge les autres et soi-même, on n'écoute pas les douleurs qu'on peut avoir, on n'écoute pas les mots qu'on peut avoir. Et le problème de ça, c'est qu'on arrive quand même à des pourcentages qui sont quand même importants. Il y a quand même 20% d'infirmières et 30% d'aides-soignantes qui arrivent à la retraite avec un taux d'invalidité. Donc on essaye, nous, au niveau de la CFDT, de faire reconnaître tous ces maux qui sont liés, ces syndromes métaboliques qui sont liés, en fait, au travail de nuit ou au rythme effréné et infernal à l'hôpital. Tout ce qui est surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil, la baisse de la capacité, de la concentration et de la mémoire. Et puis tout ce qui est somnolence, anxiété, dépression. On essaye de faire reconnaître tous ces troubles en maladies professionnelles. Donc ça, c'est un gros combat que mène la CFDT. On a réussi à quand même faire reconnaître en maladie professionnelle un cancer du sein pour une professionnelle, une aide-soignante. Alors c'était du Grand Est, la région du Grand Est, mais c'est une première victoire et on ne s'arrêtera pas là. Il faut vraiment que le gouvernement se réveille et aide l'hôpital public.
En deux, trois mots pour les auditeurs, les auditrices là, qui nous écoutent, ce serait quoi les solutions, quels seraient les points sur lesquels il faudrait appuyer pour que ça change, pour que les choses s'améliorent dans ce domaine-là ?
Il y a tellement de choses à faire.
En deux, trois mots.
Ça va être compliqué. Il faut déjà écouter le terrain. En fait, il faut partir du terrain. C'est le terrain qui amène les solutions la plupart du temps. Donc, il faut écouter le terrain. Il faut venir prendre le temps d'écouter ce que les professionnels ont à dire, en fait, pour construire ensemble. Si on construit seul, ça ne marchera jamais.
Lauriane Rivet, Audrey Arbona, merci à vous deux.
Merci.
Vous.
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B, en direct et en public, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Vous pouvez nous rejoindre encore pour assister à l'émission en direct. Et il y a quelques places.
Claudina Lobos, vous êtes coordinatrice emploi au CIDFF de l'Ain. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors, le CIDFF, c'est une association tout d'abord qui a son siège social à Bourg-en-Bresse. On est 12 salariés et on accompagne les femmes vers l'autonomie sur toutes les formes qui soient. On est une équipe pluridisciplinaire puisque je coordonne un service emploi avec deux conseillères emploi formation dont je fais partie. Je travaille aussi avec des juristes qui renseignent. Alors, Centre d'information droit des femmes et des familles, on entend le mot « femme », mais on accompagne sur le volet juridique et on conseille, on informe plutôt les hommes également. Nous avons aussi des médiatrices familiales qui offrent leurs services, donc qui interviennent dans des situations qui peuvent être conflictuelles seulement s'il n'y a pas de violence. Que dire de plus ? On a également une maison digitale avec une conseillère numérique, Caroline, qui accompagne les personnes sur les services numériques.
Si on revient sur le volet de l'emploi, comment les femmes arrivent jusqu'à vous, jusqu'au CIDFF ?
Alors, de plein de manières différentes, différents canaux sont possibles. Les travailleurs sociaux peuvent nous les orienter. Donc là, on est sur un public de bénéficiaires du RSA, donc les travailleurs sociaux du département. Nous avons également des liens étroits avec Pôle emploi, qui désormais s'appelle France Travail, qui peuvent nous orienter aussi des femmes. On est essentiellement sur des dispositifs féminins pour des raisons de financement, mais on pourrait faire aussi d'autres choses. Et puis aussi de manière spontanée, soit le service juridique peut nous orienter une femme qui a une situation, je dirais, elle peut travailler, mais sur un temps partiel, parfois subi, parfois précaire. Et elle souhaite soit se reconvertir ou aller vers un temps complet ou un emploi plus pérenne.
Et donc, quel est votre accompagnement ? Qu'est-ce que vous proposez à ces femmes quand elles viennent vers vous ?
Alors, premièrement, on va être vraiment sur du diagnostic. Donc, ça va être une écoute, un entretien qui se fait en entretien individuel où on va vraiment questionner sur l'environnement de la femme. Donc, qui dit environnement, alors le mot est peut-être pas très chouette, mais les freins qu'elles peuvent avoir pour accéder à l'emploi ou une reprise d'activité, puisque l'accompagnement est celui-ci, c'est de reprendre une activité. Donc, ça va être vraiment d'écouter et de savoir aujourd'hui comment elles s'organisent, puisque en 2023, 74% d'entre elles étaient en situation de monoparentalité. Donc le frein, c'est les enfants, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, la femme peut faire le choix d'avoir des enfants, mais la plupart d'entre elles peuvent se retrouver seules et avec ce que ça implique aussi sur la pauvreté de ces femmes.
Donc vous faites un diagnostic avec elles et ensuite oui. Vous allez les mettre en lien avec des entreprises ou vous les accompagnez à rédiger des CV, des lettres de motivation ?
Alors ça va être vraiment une des étapes possibles. Ça va vraiment être en fonction de l'accompagnement et de la temporalité. Parce que parfois, elles arrivent vers nous et elles sont perdues parce qu'elles ont été pendant des années éloignées de l'emploi. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien direct entre les années d'inactivité salariale, parce que je dis inactivité, mais elles sont loin de ne rien faire, le retour à l'emploi. Il y a un lien vraiment très direct. Donc le CV, la lettre de motivation, c'est l'outil de recherche emploi, mais je dirais c'est vraiment la finalité. Avant, on va travailler le projet professionnel, si parfois il faut aller sur la formation, et c'est là où France Travail, le lien peut être fait avec le droit commun pour les accompagner vers ce projet-là.
Manon Jakowski, vous êtes conseillère en entreprise à l'ADI. Idem, c'est quoi l'ADI ?
Alors l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc c'est une association nationale qui défend l'idée que tout le monde peut entreprendre. Et du coup, notre mission, c'est de faire en sorte que nul ne soit empêché de créer son entreprise ou de la développer aussi à cause d'obstacles, merci, qui soient financiers, administratifs, juridiques ou psychologiques. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si notre activité ne c'est pas exclusivement pour les femmes, c'est quand même dans l'ADN de l'ADI d'encourager l'entrepreneuriat des femmes qui sont souvent confrontées à de nombreux freins, autant dans la création, mais aussi dans le développement de leur entreprise.
Aujourd'hui, vous êtes venue avec Émilie. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été accompagnée par l'ADI.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Voilà, quel était votre projet ? Comment vous avez été mise en contact ?
Alors moi, j'avais un projet d'être accompagnante en parentalité. Donc j'avais besoin en fait d'un financement parce que je venais d'être maman et que je n'avais pas du tout les finances pour lancer mon activité. Et en fait, l'ADI m'a fait confiance, donc j'ai rencontré Manon. Et c'est à ce moment-là, en fait, donc on a échangé sur mon projet, on a regardé si c'était un projet qui était viable, d'abord. Et puis après, donc, j'ai rempli un dossier et je suis passée en commission. Et j'ai eu la validation du coup de mon financement avec une aide supplémentaire de la région, donc non négligeable. Et ça m'a permis en fait de pouvoir finir mes formations, de financer tout mon matériel pour être vraiment bien installée dès le départ et d'avoir une trésorerie de sécurité en fait pour les premiers mois, pour tous les prélèvements. Le téléphone, enfin les choses auxquelles on pense
pour bien
pas,
démarrer
mais
ouais, sereinement. Quand on a préparé l'émission, on a échangé toutes les deux. Vous m'avez expliqué que vous êtes une jeune maman, que votre mari travaille et que vous n'arriviez pas à trouver en fait avant un emploi adapté salarié avec un temps qui s'adaptait à l'horaire de la crèche, aux horaires de votre mari. C'est pour ça que vous êtes lancée dans l'entreprise.
Alors c'est pas la raison première. La raison première, c'est vraiment le parcours qu'on a eu pour devenir parent, qui était très difficile. On a perdu des jumeaux, on a perdu une petite fille. Maintenant, j'ai une fille qui va très bien. Voilà. Mais du coup, c'est ça qui m'a donné le courage en fait de le faire. Mais en fait, c'est aussi de pouvoir. Je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, c'est pas simple, mais c'est quand même une bonne manière de pouvoir allier sa vie de maman et sa vie de professionnelle en fait, et en faisant quelque chose que j'aimais, parce que j'ai 2 ans de trou dans mon CV lié à ce qui m'est arrivé sur mes grossesses. Et malheureusement, ça, on ne peut pas trouver de travail derrière parce que peu de recruteurs nous rappellent. Ils voient juste le trou de 2 ans et c'est tout, en fait. Sauf qu'une femme, quand il y a une grossesse qui ne va pas au bout, c'est elle qui... Le mari, il retourne travailler. Enfin, voilà. Une femme, sa vie, elle est mise en pause. Trouver un travail aussi quand on est enceinte, ce n'est pas possible. Et voilà. Et du coup, c'est des délais qui s'allongent. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on rentre dans un cercle vicieux comme ça, on n'en échappe pas.
Manon, Claudine Hearn, on a échangé au déjeuner. Ces femmes qui font des pauses pour avoir des bébés. C'est vrai que ce n'est pas pris en compte, ça, dans le milieu du travail. Comment vous voulez accompagner ces femmes à valoriser ces temps de pause, entre gros guillemets, hein?
Alors, nous, on a différents outils au CIDFF parce que c'est vraiment notre cœur de métier et on a une manière aussi de valoriser toutes ces compétences-là, notamment un atelier valoriser un parcours atypique, et en fait ça l'est pas du tout, mais c'est juste une vie. Toute personne qui est ici est née d'une personne qui a eu besoin de se poser. Voilà, parce qu'une grossesse, ça implique des changements physiques et une pause obligatoire, et valoriser toutes ces compétences-là. Et c'est vrai que ça va être de travailler le discours qu'on a. Après, la discrimination, les stéréotypes, malheureusement, on la vit dure. Et à nous de faire passer ce message-là et de valoriser toutes les compétences interpersonnelles qui sont développées pour... moi, j'ai eu tout à l'heure plein de femmes que j'accompagne qui sont venues, notamment une femme avec 7 enfants et qui me dit je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire. Alors attendez, on va en parler et on va valoriser tout ça. Mais c'est vrai que les employeurs ou les recruteurs parfois posent des questions qui déstabilisent, et au bout de nombreuses démarches, c'est quelque chose qu'on intègre malheureusement et on nous le renvoie aussi. Donc il faut être assez droite dans nos bottes pour expliquer, j'ai dû m'arrêter pour mes enfants, ou j'ai fait le choix de m'arrêter aussi. On peut avoir fait le choix d'avoir pris un congé parental pour profiter de cette belle parenthèse qu'est cet événement-là.
Nora Karzazi, vous êtes représentante de la CGT de l'Ain. Vous êtes en contact direct, vous aussi, avec des femmes, des travailleuses, des salariés. Au regard de ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous constatez concernant ces femmes et le monde du travail ?
Je suis désolée, je vais me permettre de reprendre. Je suis l'animatrice du collectif Famixité, la représentante et Corinne Jacquet-Garcia, qui est notre secrétaire générale. Et nous en sommes très fiers parce que c'est une représentante féminine. Voilà.
Donc,
pour répondre à la question, sur la question des freins, ils sont multiples, pour permettre aux femmes d'accéder à la question de l'émancipation, auquel nous croyons et qui passe nécessairement par le travail. Un des premiers freins, c'est par exemple la duplicité du gouvernement. Quand vous voyez que le premier quinquennat se gargarisait d'avoir pour grande cause nationale la cause des femmes, et s'en est suivi pour ce deuxième quinquennat la même cause en ayant injecté que 50 millions. Ça pose des réelles interrogations. Quand vous savez que le premier poste de dépense de l'État, c'est un peu plus de 200 milliards qui sont donnés aux entreprises sans conditionnalité et sans retour effectif. C'est vrai qu'à la CGT, nous nous interrogeons. Au-delà de la duplicité du gouvernement, il y a d'autres freins qui sont le poids de la parentalité. On sait particulièrement que les femmes ont la double journée, la charge mentale. On sait, comme ça a été rappelé ici, et aussi à travers la déclaration intersyndicale, qu'il y a la question des temps partiels subis. C'est plus de 90% des femmes. On sait qu'il y a la question des services publics qui sont démantelés méthodiquement et que c'est quasiment 200 000 places qui manquent. Voilà, je veux dire, on pourrait continuer longtemps. Malheureusement, la liste est longue, mais voilà, j'ai listé les principaux freins qui empêchent les femmes, qui les entravent.
Pour des femmes qui seraient éloignées des syndicats et de ce que vous venez de nous expliquer, où ça, vous avez évoqué des chiffres en millions, en milliards. Enfin voilà, c'est pas très concret pour les auditrices ou les auditeurs qui nous écouteraient. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur le terrain pour que ce que vous dites, ça soit mis en place et qu'on entende enfin vos revendications? Qu'est-ce qui manquerait en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ces femmes?
Alors, quand vous parlez de chiffres et que vous dites que ça n'est pas très concret, moi, je dis qu'au contraire, ça l'est. Je veux dire, il faut mettre en parallèle, justement, qu'est-ce que sont 50 millions par rapport à 200 milliards. Je veux dire, quand vous parlez de levier, nous, on va apposer le mot plutôt revendication. Nous avons des revendications claires qui sont celles, par exemple, d'un pôle public, de services publics réels et effectifs qui concernent la petite enfance, qui peuvent dégager les femmes, ou alors qui permettraient aussi un service public du troisième ou du quatrième âge, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui permettrait aussi de dégager les femmes de cette question-là, parce qu'on sait qu'elles sont majoritaires à se saisir, à prendre en charge et à mettre de côté leur travail pour pouvoir s'occuper de leurs aînés. Elles sont très souvent majoritairement aidantes. Je veux dire, la question des revendications, elle est nécessairement en lien avec l'argent, parce que c'est les sommes que vous allez allouer. Je veux dire, en ce moment, je sais pas, on a entendu la question de l'index salarial. Nous, ça nous fait beaucoup rire parce que c'est un peu de cosmétologie, un peu le... on est gentil à la CGT de dire que c'est qu'un peu, parce que si vous voulez, cet index salarial, à l'heure d'aujourd'hui, il ne représente rien. Les inspecteurs du travail ne peuvent pas vérifier. Nous n'avons pas la main sur cette question-là. Vous avez des écarts de différence de 1 point. Donc, autant vous dire que quand une entreprise dit qu'elle a un index à 90%, en vrai, ça représente peut-être 10 points d'écart de salaire avec des hommes, des femmes. C'est une fumisterie et nous le dénonçons.
En un mot, parce qu'on doit... passer à la partie suivante. Mais qu'est-ce que vous diriez à des femmes qui auraient envie de vous rejoindre? Comment vous les... quels arguments vous leur donneriez pour leur dire « Venez nous rejoindre parce que c'est là qu'il faut agir
» Écoutez, je leur dirais que de rejoindre une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, mais particulièrement la nôtre, effectivement, je vais prêcher pour ma paroisse parce que nous pensons qu'il est important en tant que travailleur de défendre nos droits et que la majorité du temps, c'est au sein du travail que nous subissons, si vous voulez... la subordination, et que c'est ensemble que nous arrivons à faire entendre nos voix et que ça passe nécessairement par rejoindre un syndicat.
Merci mesdames.
Yeah. just don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like.
Vous êtes toujours sur Radio B en direct et en public à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg. Et on vient d'écouter Lizzo avec le titre Juice, ou Lizzo. Donc une musique plus pop pour introduire nos invités.
Mélanie Baudra et Fatih Benamour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes médiathécaire au sein du réseau de lecture publique de Bourg-en-Bresse. Vous êtes habitué de la radio, hein, puisqu'on vous retrouve tous les mois dans les coups de cœur des médiathécaires. Et aujourd'hui, on avait envie, puis vous aussi, vous aviez envie de nous présenter une petite sélection spéciale pour clôturer l'émission.
C'est ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, avec ma collègue Mélanie, nous allons vous présenter quelques documents et jeux coups de cœur pour cette belle journée. Je vais donc commencer par un jeu du rôle du consentement, OK, not OK, chez Topla. C'est un jeu pour comprendre ce qu'est le consentement et la différente manière de dire oui. Parce que le consentement, c'est dans la vie de tous les jours, dans les émotions, mais aussi dans les rapports sexuels, par exemple. Il faut bien en comprendre les enjeux. Celui ou celle qui pose la question doit comprendre si l'autre est consentant ou non. Si un doute s'installe, une discussion doit être lancée. Mais bien évidemment, sans aucune pression. Un jeu très pédagogique pour échanger avec les adultes et les adolescents autour de la question liée au consentement. Un jeu conseillé à partir de 12 ans. Le jeu peut se jouer dans les 4 langues disponibles, en français, mais aussi en anglais, allemand et espagnol. Conçu en France de manière équitable et responsable, vu dans l'émission quotidienne sur TMC et France 3 pour la petite anecdote, créé et illustré par Claire Vimon. D'autres jeux sur le sujet, comme la bataille féministe et les jeux de privilèges, les 7 familles inspirantes, les grandes femmes, disponibles aujourd'hui dans notre stand ou à partir de demain dans les médiathèques.
J'enchaîne avec une BD ado-adulte de Blanche Chabat. Il s'agit de Mythes et Meufs, qui revient sur la légende de 20 personnages féminins fictifs ou réels, tirés de dessins animés, de la mythologie ou de l'histoire de France. De Jeanne d'Arc à la Reine des Neiges, leurs noms vous parlent forcément, mais connaissez-vous vraiment toute leur histoire ? Je vous laisse ouvrir ce livre pour vous rattraper. Le tome 1 est disponible à la médiathèque Césaire et le tome 2 est accessible sur la plateforme Isneo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Isneo est une plateforme avec plein de BD comprises dans l'abonnement des médiathèques.
Intéressant.
Merci Blani. Je vais donc là vous présenter un documentaire adulte, corps, amour et sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions. Édité chez Albin Michel, autrice Charline Vermont. Il n'y a pas d'âge pour s'informer, se questionner, communication, consentement, bienveillance, amour. Tout ceci devrait être naturel. Et grâce à Charline, cela devient de jour en jour. Ce livre est tout simplement une pépite personnellement. très complet et se découpe par thème et peut être donc abordé par la thématique qu'on souhaite. Beaucoup d'illustrations qui le rendent léger à la lecture. Explique énormément de choses qui sont parfois évidentes mais sur lesquelles on a été mal éduqué ou mal informé. L'éducation à la sexualité enfin à la portée de tous, à mettre dans n'importe quelle main. Dans la même collection et de la même autrice, elle s'adresse là au public jeunesse, corps, amour et sexualité, les 20 questions que vos enfants vous poseront. Et à retrouver à la médiathèque Césaire et à la médiathèque Camus.
Merci. Ensuite, j'ai apporté un documentaire, Malala, pour le droit des filles à l'éducation. Il s'agit d'un documentaire pour les jeunes dès 8 ans qu'on trouve dans les 3 médiathèques. L'autrice, Raphaël Frière, et l'illustratrice, Aurélia Fronti, nous content l'histoire de Malala. Mais qui est cette fameuse Malala ? Elle est pakistanaise et musulmane et la plus jeune à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2014. C'est donc le récit de son combat pour l'accès à l'éducation des filles, qui est raconté comme un album joliment illustré, avec aussi quelques pages documentaires contenant des photos, des dates clés et des portraits de personnalités. Et enfin, je vous invite à voir La Servante écarlate, en DVD à la médiathèque Césaire. C'est une série récente, adaptée du roman de Margaret Atwood. Écrit en 1985, cette fiction a encore aujourd'hui toute sa place. Dans cette dystopie, les États-Unis sont devenus Gilead. Ce gouvernement totalitaire et sectaire répartit les femmes en castes. Elles doivent soit tenir le rôle d'épouse et mère, soit celui de domestique, soit encore procréer. Difficile d'en dire plus sans tout dévoiler. Mais avec 5 saisons, au rythme palpitant, je n'ai qu'un mot à vous dire, foncez. Et si vous préférez la lecture, le roman est disponible dans chaque médiathèque avec aussi une version en anglais et une version numérique.
Vous pouvez donc nous retrouver jusqu'à 19h au stand des médiathèques. Vous pouvez donc découvrir de la fiction, des films, des jeux, coloriage et des histoires pour les plus petits. Vous avez aussi la possibilité de faire votre inscription ou réinscription aux médiathèques et découvrir toute notre programmation du réseau jusqu'au mois de juin.
Merci. Et puis on écoutera la petite musique que vous avez choisie. Tu veux nous en dire un petit mot ?
Eh bien, c'est donc le titre « Si un jour » du groupe La Femme.
Voilà. Bien, merci à vous et merci à vous toutes, toutes et tous pour cette émission. Il est l'heure de se quitter, mais avant ça, un petit rappel.
Ben oui, on ne peut pas se quitter sans dire quand même quelques mots de cette émission féministe préparée avec enthousiasme et détermination tous les mois par des membres du collectif féministe 01. Alors d'abord, le collectif féministe, qu'est-ce que c'est ? Créé en 2014 pour accueillir la marche mondiale des femmes à Bourg, le collectif est ouvert à toutes et à toutes et rassemble des individualités, des militantes et d'autres collectifs avec l'ambition de proposer un espace commun de partage, d'échange, de construction et de lutte pour les femmes du territoire. La porte est ouverte en grand, rejoignez-nous.
Et une invitation à rejoindre quelques membres du collectif d'ici quelques minutes pour des ateliers ici, toujours à la Maison de la Citoyenneté et de la Culture de Bourg. Atelier broderie, ouverture du Fab Lab pour de l'impression sur t-shirt, tote bag, une immersion dans les machines de ce fabuleux atelier. Et une chorale féministe là, qui est en train de se mettre en place. Ça va commencer dès qu'on rend l'antenne sur place. Donc c'est ici à la MCC que ça se passe, c'est jusqu'à 19h. La journée le 8 mai, pas que, ça se poursuit également avec les stands partenaires au premier étage. Un rendez-vous aussi à la tannerie de Bourg-en-Bresse à partir de 20h pour la soirée Boum Boum, le patriarcat.
Ouais. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent rester dans les barrages, une soirée théâtre ici à la MCC avec la pièce Audition jouée par Laetitia Sleska à 20h30. C'est organisé par la MJC de Bourg. Et une autre rencontre vendredi prochain, le 15 mars, à la salle Olympe de Gouges à Bourg-en-Bresse avec la venue de Naïk Deken, co-autrice du livre « Notre corps, nous-mêmes », un livre hyper important que je vous conseille fortement. Attention, il faut s'inscrire, on mettra les infos en ligne.
Un énorme merci à toutes nos invitées et notre invité, les participantes et participants de cette émission. Un merci à l'équipe organisatrice de l'événement Le 8, mais pas que, au Centre social de la Grande Ressource, son association d'habitantes et d'habitants au CRE, à l'association Gemna Mix Attitude à la ville de Bourg-en-Bresse, à la MJC pour l'accueil dans ce musée numérique, à la GLC et Altec pour les connexions avec le collectif féministe. Merci Natacha.
Merci Elodie.
Merci Jimmy à la réalisation. Merci au public.
Ouais, bravo.
Et à nos auditeurs, auditrices. On se retrouve le mois prochain parce qu'il n'y a pas que le 8 mars.
Ouais. Ah
Mais moi j'aimerais vraiment